conversation urbaine et architecturale, Myriam Schwartz, architecte et urbaniste.
Radio-imo.fr.
Une émission présentée par Cardam, l'engagement d'un groupe innovant, un savoir-faire qui allie conseil, architecture et aménagement.
Bonjour, bonjour. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Catherine Jacquot. Bonjour.
Bonjour.
Donc Catherine Jacquot est architecte, urbaniste. Je suis sûre qu'une partie des auditeurs architectes la connaissent, mais puisqu'elle a été pendant 4 années durant présidente du Conseil national de l'Ordre des architectes. Et je vais, articuler l'interview en deux parties. Une partie, on va dire, sur l'engagement, les fonctions, le savoir-faire sur un certain nombre de missions. Et puis une deuxième partie sur l'agence proprement dite. Donc vous êtes installée depuis un certain nombre d'années dans le paysage architecture, de l'architecture et de l'urbanisme au niveau national. Je vais peut-être aujourd'hui vous focaliser un petit peu l'interview sur votre rôle d'architecte conseil de l'État en Dréal, puisqu'il est important de savoir et que les auditeurs sachent quelle est exactement cette fonction et cette mission ?
Alors, les architectes conseils de l'État sont un corps qui, auprès des deux ministères que sont le ministère de la Culture et le ministère de l'Écologie, qui a pris plusieurs noms successifs, ministère du Logement également, nomme des architectes auprès des DDT, auprès des DREAL et auprès des DRAC. Donc, à un niveau départemental et à un niveau régional, et sont là pour participer à l'application des politiques publiques de l'État.
Ça veut dire que vous intervenez auprès des agents de l'État pour faire passer certains messages ou nuancer un peu ou expliciter les politiques de l'État ?
Alors, nous intervenons, oui, auprès des agents de l'État, mais aussi auprès des élus, auprès du public, en collaboration avec les paysagistes conseils, dans un réseau d'acteurs hein, qui sont les acteurs du cadre de vie, les CAUE notamment, et autres, les UDAP, ABF et les DDT pour les DREAL en tout cas.
Alors, on va essayer de réduire un petit peu les notions de DRAC, acronymes, etc. Parce que oui, je pense que c'est un peu compliqué. Simplement, aujourd'hui, vous intervenez par exemple sur la région Rhône-Alpes-Auvergne, où il y a effectivement à la fois la métropole, à la fois le périurbain et à la fois les bourgs, et puis évidemment l'habitat dispersé. Est-ce que aujourd'hui la notion de revitalisation des bourgs est comprise et mise en place aujourd'hui d'une manière explicite ?
Voilà. Donc ça fait tout à fait partie des politiques publiques, hein, donc dont nous avons Andréal, pour lesquelles nous avons certaines missions en direction régionale de l'équipement, et donc on met en application ce qui s'appelle maintenant dorénavant bien les petites villes de demain. La revitalisation des centres-bourgs a fait l'objet d'une large expérimentation auprès de plusieurs petites villes. Et c'est effectivement, me semble-t-il, une action tout à fait majeure pour l'aménagement du territoire. C'est une action systémique dans le sens où elle participe à la réduction de la consommation des terres naturelles et agricoles.
C'est un point essentiel.
Un point tout à fait essentiel. Elle limite l'étalement urbain et elle permet de retrouver un lien social.
Alors justement, excusez-moi, ça se décrète pas. Comment fait-on pour permettre à ces bourgs qui parfois ont été oubliés, malmenés, de retrouver sens, à la fois d'une manière donc économique, sociologique, avec des activités, des cafés, etc., mais aussi de permettre à des familles de vivre dans un habitat rénové, avec une vraie politique, on va dire, d'isolation et de mise en place d'une réduction importante de la facture énergétique, parce que ça a aussi là un sens extrêmement important.
Oui, tout à fait. Donc, en fait, il s'agit de faire marche arrière, en quelque sorte. On a assisté pendant ces 30 dernières années à une extension urbaine importante qui a conduit à, on peut le dire, un gaspillage de terres agricoles à une débauche en fait de construction sur des périphéries, en périphérie de ces bourgs, avec des zones d'activité, des zones commerciales, des zones résidentielles. Bon, ce sont des parties construites de notre territoire, qu'il ne s'agit pas du tout de rejeter ou d'abandonner.
Oui, on ne va pas faire tabula rasa.
Pas du tout. Il faut réhabiliter les centres, c'est aussi réhabiliter leur périphérie, retrouver du lien entre tout cela, c'est reconstruire sur ce qui est déjà urbanisé et simplement ne plus s'étendre et redonner une mixité de fonctions, retrouver à l'intérieur des centres la valeur patrimoniale de cet habitat. Tout ne peut pas être conservé.
Ça veut dire qu'on doit passer par certaines démolitions, même si le mot n'est pas toujours bien reçu.
Alors, l'habitat de certains centres anciens n'est plus habitable, si on peut dire, au sens contemporain du mot. C'est-à-dire que il faut faire venir de la lumière, il faut que les familles puissent y vivre de façon agréable. Donc oui, il peut être nécessaire parfois de démolir pour pouvoir mieux réparer, mieux rénover. Et c'est ce que, mais c'est assez, enfin la démolition est à mon avis une nécessité, mais marginale. Il faut vraiment se mettre dans une optique de réparation et de rénovation. Et alors, c'est difficile, c'est difficile parce qu'on travaille sur une matière qui est existante, habitée,
humaine,
voilà.
Comment fait-on pour que les opérateurs, puisque nous sommes dans un monde où l'État ne peut pas investir toutes les parties et toutes les fonctions, comment fait-on pour que les opérateurs privés puissent s'intéresser à cette matière vivante, puissent s'intéresser à cette idée de revitaliser les centres-bourgs et pouvoir faire ici et là des opérations qui soient quelque part dans leur état d'esprit, mais qui permettent une certaine rentabilité?
Alors, pour le moment, je pense que parler de rentabilité, ça reste un objectif, mais ça n'est pas tout à fait d'actualité. Il est indispensable d'avoir un investissement de l'État. C'est ce qu'il fait d'ailleurs, avec les actions cœur de ville, avec les petites villes de demain. L'État a décidé de s'intéresser à ce problème de revitalisation. On a la chance en France d'avoir un réseau de villes moyennes et petites extrêmement important. Et pour pouvoir réimpulser, en tout cas, une attractivité, le désir d'aller d'habiter dans ces centres-villes, il est nécessaire la présence de l'État est absolument indispensable.
Donc ça, c'est la première étape. Et la deuxième étape pourrait être en partie des actions d'opérateurs privés.
Ah ben, on espère qu'un jour, cette attractivité étant redevenue une réalité, bien sûr, les opérateurs privés peuvent. C'est déjà le cas dans certains cas. Tous les centres-villes dévitalisés ne sont pas. Certains sont situés dans des sites attractifs. Et à ce moment-là, les choses sont beaucoup plus faciles. Là où c'est difficile, c'est lorsque on est dans des zones qu'on appelle détendues, c'est-à-dire où il y a un marché immobilier qui est amorphe et donc, qu'on ne peut pas dire en déshérence, où il y a beaucoup de vacances, où les commerces sont partis. Mais on ne peut pas rénover l'habitat, faire revenir les commerces si on ne travaille pas aussi sur les déplacements, si on ne travaille pas aussi sur l'espace public. Tout cela est un ensemble. Il faut la réhabilitation, c'est vraiment une action systémique.
Je vous prie de m'excuser, mais c'est vrai que l'espace public, c'est important.
Oui.
C'est ce qui fait sens, c'est ce qui fait cohésion sociale.
Oui.
Toutefois, une partie des élus de ces territoires-là, partout d'ailleurs, mais des élus de ces territoires-là, peut-être d'une manière un peu plus, je dirais, sensible, ont le sentiment qu'ils ne pourront pas payer ces espaces publics, qu'ils ne pourront pas mettre l'argent de la collectivité sur ces espaces qui pourront pourtant font sens.
Oui, bien sûr. Non, mais le problème, comme je le disais, c'est pour le moment la revitalisation de ces centres-bourgs sont des choses difficiles à financer. Qu'il faut, c'est pour ça que le soutien des fonds publics est indispensable. Et je pense que, en tout cas, c'est dans notamment l'action Cœur de Ville, quelque chose qui commence à se mettre en place et qui, j'espère, va se
développer. Je pense que c'est un sujet extrêmement important et on l'abordera sûrement, j'irai tout au long de l'année, parce que je pense que c'est effectivement une notion importante qui, aujourd'hui, fait l'objet d'un certain nombre d'attentions. Est-ce que vous pouvez nous parler aussi de votre implication en tant que présidente de l'Ordre national des architectes, fonction que vous avez eue pendant 4 ans et qui est quand même aujourd'hui, on a l'impression quand même que la présidence de l'Ordre, c'est une fonction importante, mais je ne suis pas sûre qu'on ait vraiment le sens de ce que cela veut dire en termes d'action.
Alors, en termes d'action, l'exercice de l'architecture va du plus, je dirais, personnel au plus public. Hein. Nous sommes, et je dirais que la présidence de l'Ordre des architectes m'a permis de me rendre compte de cette dimension tout à fait publique, hein, de l'exercice de l'architecture et notamment de la place de l'architecture dans les politiques publiques nationales, européennes et même internationales. Donc, il faut savoir que pour avoir une qualité architecturale, il faut un contexte législatif, réglementaire, social qui le permette. L'action individuelle n'est pas du tout suffisante. L'architecte ne peut pas, à lui seul, individu, parvenir à une qualité architecturale qui soit celle de qui participe à l'intérêt public, en tout cas. Et donc, en tant que présidente de l'Ordre, j'ai simplement essayé de participer à la création de ces conditions de la qualité architecturale dans l'intérêt public.
Et alors, est-ce que, parce que c'est vrai que c'est une période où il y a eu une visibilité dans les médias extrêmement importante de l'architecture, on a vraiment le sentiment qu'entre, on va dire, les années 2000 et maintenant, les dernières 20 années, l'architecture est devenue un objet médiatique qui permet aussi de donner le sentiment à un certain nombre d'habitants qui peuvent voyager grâce à l'architecture. Il y a des grandes figures de l'architecture. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une espèce de conscience que l'architecture nous aide à mieux vivre, hein ?
Alors, l'architecture nous aide certainement à mieux vivre. Maintenant, que chacun soit conscient, je ne suis pas sûre. Il y a une architecture exceptionnelle qui est complètement indispensable, qu'on voit dans la création des grands équipements, mais moi je me suis attachée en tout cas en tant que présidente surtout à l'architecture du quotidien, hein, à la fabrication du cadre de vie pour chacun, et celle-là en revanche elle est tout de même difficile. Il faut diffuser la culture architecturale partout et auprès des habitants comme auprès de leurs représentations, élus ou pas.
Ça veut dire qu'il faut apprendre aux élus à regarder différemment leurs bâtiments, leurs villes.
Oui, bien entendu. Il faut leur apprendre à regarder. Enfin, il faut leur apprendre. Je ne sais pas s'il faut leur apprendre. En tout cas, il faut qu'ils soient conscients que pour l'avenir de leurs électeurs et de nos concitoyens, il faut que ce cadre de vie prenne en charge un certain nombre d'enjeux, les enjeux environnementaux en tout premier lieu, mais aussi des enjeux sociaux, mais aussi des enjeux économiques, et surtout contribuer à la création de ce lien social que la ville peut créer, que l'habitat, dans le sens général du mot habiter, peut créer.
Alors, vous faites une passerelle formidable avec l'interview que nous allons avoir la semaine prochaine sur votre agence et la pratique dans votre agence, puisque vous appliquez ces théories-là dans la vraie pratique du quotidien de votre agence.
Oui, en tout cas, j'essaie, oui.
Merci, chers auditeurs, et à la semaine prochaine, évidemment.
Conversation urbaine et architecturale, Myriam Schwartz, architecte et urbaniste.
Radio-imo.fr.
Une émission présentée par Cardam, l'engagement d'un groupe innovant, un savoir-faire qui allie conseil, architecture et aménagement.